Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Est l'un des auteurs italiens contemporains les plus importants. Il est né à Naples en 1950 dans une famille de moyenne bourgeoisie. Dans sa jeunesse, il s'engage politiquement au sein du mouvement d'extrême gauche Lotta Continua, puis exerce divers métiers manuels en Afrique, en France, en Italie comme conducteur de camions, ouvrier sur des chantiers de construction puis maçon. Métier qu'il continuera d'exercer après la publication de son premier livre, Une fois, un jour, en 1989. Il aura alors 40 ans. Il apprend de nombreuses langues en autodidacte, dont le yiddish et l'hébreu, afin de traduire la Bible, même s'il se dit non-croyant. Il est également alpiniste. Ses romans, Trois chevaux et Monte Didio, ont obtenu un grand succès. Monte Didio, qui a obtenu le prix Femina en 2002, est le roman dont nous avons choisi de vous lire le début. Monte Didio, ou Montagne de Dieu, Monte Didio, c'est le nom d'un quartier populaire à Naples. L'enfance napolitaine de l'écrivain a donc insufflé ce roman dans une Naples coloré sans cesse, confronté à Jérusalem, où existe le vrai monde Dieu. Erli de Luca nous apprend que dans les Saintes Écritures, Jérusalem est appelée « ville des sangs » comme Naples. Monte Didio est un livre servi par une langue poétique.
Giornata è un morso. La journée est une bouchée. C'est la voix de Masterico devant sa boutique. Moi, j'étais là depuis un quart d'heure pour bien commencer ma journée de travail. Lui, il arrive à 7 heures, relève le rideau métallique et dit sa phrase d'encouragement. La journée est une bouchée. Elle est courte. Il faut se remuer. À vos ordres, lui dis-je. Et ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, j'écris ces premières notes pour tenir compte des nouvelles journées. Je ne vais plus à l'école. Je viens d'avoir 13 ans et mon père m'a mis à travailler. C'est juste, c'est le moment. L'instruction obligatoire va jusqu'à la 9e. Lui m'a fait étudier jusqu'à la 7e, parce que j'étais fragile. Et puis, comme ça, j'avais un meilleur niveau d'études. Par ici, les enfants vont au boulot, même sans être allés à l'école. Mon père n'a pas voulu. Il est docteur. Il n'a pas fait d'études. Aujourd'hui seulement, il apprend à lire et à écrire au cours du soir de la coopérative des dockers. Il parle le dialecte. Il est intimidé par l'italien et par la science de ceux qui ont fait des études. Il dit qu'on se défend mieux avec l'italien. Moi, je le connais parce que je lis les livres de la bibliothèque, mais je ne le parle pas. J'écris en italien parce qu'il est muet et que je peux y mettre les choses de la journée, reposer du vacarme du napolitain.
Enfin, je travaille, même si c'est pour pas cher. Mais le samedi, j'apporte une paye à la maison. C'est le début de l'été. Le matin, à 6h, il fait frais. Nous déjeunons tous les deux. Et puis j'enfile, moi aussi, ma veste de travail. Je sors avec lui. Je l'accompagne un bout de chemin. Et je retourne sur mes pas. La boutique de Masterico se trouve dans la ruelle, au bas de notre immeuble. Pour mon anniversaire, papa m'a offert un morceau de bois recourbé. Ça s'appelle boomerang. Je le tiens dans ma main, sans rien demander. Je sens un chatouillis, une petite décharge électrique. Papa explique qu'on le lance loin et qu'il revient en arrière. Maman n'est pas contente. Ma ado, la da ausa. Mais où vais-je m'en servir? Elle a raison. Dans ce quartier de ruelle qui s'appelle Monte Didio. Si tu veux cracher par terre, tu ne trouves pas de place entre tes pieds. Ici, il n'y a pas de place pour étendre le linge. D'accord, je ne veux pas le lancer. Mais je veux m'exercer à faire le mouvement. Il est lourd, on dirait qu'il est en fer. Maman m'offre une paire de pantalons longs. Elle les a pris au marché de Resina, du bon tissu américain. Ils sont raides, foncés, je les mets et je fais le geste de les arranger autour des genoux. « Mossi homo porte e sordi a casa. » Oui, j'apporte ma paye le samedi, mais de là à être un homme, homo, il y a de la marge. Entre-temps, ma voix s'en est allée et je parle rauque.
Mon père a eu le boomerang par un de ses amis qui est marin. C'est pas un joujou. Un jeu, c'est l'outil d'un peuple ancien. Pendant qu'il explique, je me familiarise avec la surface. Je passe la main dessus, je la caresse dans le bon sens. Chez Masterico, j'apprends les lignes du bois. Elles ont un fil et un contre-fil. Je lisse le boomerang dans le sens de sa fuite et il tremble un peu dans ma main. C'est pas un jouet, mais pas un outil de travail non plus. C'est entre les deux, c'est une arme. Je veux l'apprendre, je veux m'entraîner à faire un lancer, cette nuit, quand papa et maman seront en plein sommeil. Suonno. J'ai vu qu'en italien, il existe deux mots. Sommeil et songe. Là où le napolitain n'en a qu'un seul. Suonno. Pour nous, c'est la même chose.
J'ai balayé la réserve à bois, j'ai eu droit à l'attaque des puces. Elles m'ont sauté sur les jambes. Au travail, je porte des pantalons courts. Elles étaient devenues noires. Masterico m'a lavé, tout nu, avec la pompe devant la boutique. On a bien rigolé. Ça va parce que c'est l'été. Nous avons mis de la poudre empoisonnée dans la réserve. Il y avait même des rats. « Oh, surecce, oh, surecce !» a crié le patron. Il en a peur. Moi, non. Puis j'ai eu ma paye. Il a compté mon argent et me l'a donné. Le soir, je commence à m'entraîner avec le boomerang. J'ai appris qu'il ne vient pas d'Amérique, mais d'Australie. Les Américains ont plein de choses nouvelles. Les Napolitains sont toujours là quand ils débarquent pour voir les nouveautés. Un cerceau en plastique vient d'arriver. Ça s'appelle un hula hop. J'ai vu Maria le faire tourner autour de sa taille sans qu'il tombe par terre. Elle m'a dit... « Essaie ?» Je lui ai répondu non, que pour moi, c'est pas un truc de mec. Maria a eu 13 ans avant moi. Elle habite au dernier étage. C'est la première fois qu'elle me parle.
Je serre le boomerang, je sens la secousse. J'ai commencé à faire le mouvement du lancer. Je le charge derrière mon épaule, je le pousse en avant pour le laisser aller, mais je ne l'envoie pas. Mon épaule est rapide, comme Maria avec ses hanches. Je ne peux pas faire voler le boomerang, nous sommes trop à l'étroit au sommet de Monte Didio. Ma main retient le bois à son dernier centimètre et le ramène en arrière. Je fais comme ça, d'avant en arrière, mon dos se dénoue, je transpire, je tiens ma prise serrée. Il suffit d'un tour de poignet pour qu'il me glisse des doigts. Au bout d'un moment, je vois que ma main droite est plus grosse que la gauche, je change de main. Une partie de mon corps rattrape l'autre, l'égale en rapidité, force et fatigue. Mes derniers lancers bloqués prennent un élan de plus en plus fort. Mon poignet souffre de plus en plus de retenir, alors j'arrête.
Je ne voulais pas y rester à l'école, trop vite grandi pour les bancs de la 9e. À l'heure du goûter, certains enfants sortaient leurs gâteaux des cartables, et à nous, inscrits à la pauvreté, le surveillant donnait du pain avec de la confiture de coing. Quand il se mettait à faire chaud, les enfants pauvres allaient à l'école les cheveux rasés, comme des melons, à cause des poux. Les autres enfants restaient bien coiffés. Trop de différences de toutes sortes, et puis eux, ils continuaient à étudier. Nous, non. Moi, je redoublais mes classes à cause des fièvres. Puis elles sont passées, et je ne voulais plus aller à l'école. Je voulais aider, travailler. Les études que j'ai faites me suffisent. Je sais l'italien, une langue paisible, qui reste sagement dans les livres.
Depuis que je travaille et que je m'entraîne avec le boomerang, j'ai bien plus d'appétit. Papa est content de prendre son petit déjeuner avec moi. À 6h, la première lueur glisse sur la rue et se faufile jusque dans les étages les plus bas. Nous n'allumons pas la lampe. L'été, la lumière avance toute fraîche à ras de terre et s'élève ensuite pour allumer un four au-dessus de la ville. Je trempe mon pain dans ma tasse de lait noirci avec de l'ersatz de café. Chaque matin, il se levait tout seul et maintenant, il aime bien que je sois là, moi aussi, pour dire un mot, sortir ensemble. Maman se lève tard. Elle est souvent faible. À l'heure du repas, je monte au lavoir pour étendre le linge, puis je le reprends le soir. Je n'étais encore jamais allée là-haut sur la terrasse, au sommet de Monte Didio, où souffle un peu de vent le soir. Personne ne me voit, et je m'entraîne là. Le boomerang frémit à l'air libre. Le manche se tord quand je le serre pour ne pas le laisser échapper. C'est du bois qui a poussé pour voler. Masterico est un bon menuisier. Il dit que le bois est bon pour le feu, pour l'eau et pour le vin. Moi, je sais qu'il est fait aussi pour voler, mais je ne le dis pas, si lui ne le dit pas. J'ai pensé que je veux lancer des boomerangs depuis les lavoirs, la terrasse la plus haute de Monte Didio.
Les bras fatigués, en sueur, je m'allonge un moment sur la terrasse où sont tendues les cordes à linge. Au-dessus de moi, il n'y a même plus un bout de ville. Je ferme mon bon œil. Je regarde en l'air avec l'autre, à demi ouvert, le miro. Le ciel devient aussitôt plus sombre, dense, plus proche, contre moi. Mon œil droit est faible. Pourtant, il voit mieux le ciel que le bon, qui me sert pour la rue, pour regarder en face, pour travailler à la boutique. Mon œil gauche est droit, rapide. Il comprend au vol. Il est napolitain. Le droit est lent. Il ne met rien au point. À la place des nuages, il voit les flocons épars du matelassier quand dans la rue, sur un drap tendu, il peigne et retourne la laine pour en faire des flocons.
Je reviens des lavoirs. Je porte le linge dans un panier. Dans l'obscurité de l'escalier, quelqu'un guette mon passage. Je les sens même dans le noir, les yeux des autres. Car lorsqu'ils regardent, ils touchent. Ils font un léger courant d'air qui passe sous une porte. J'ai dans l'idée que c'est Maria. L'immeuble est vieux. Les esprits passent le soir dans les escaliers. Sans leur corps, ils ont seulement la nostalgie des mains et ils se jettent sur les gens avec l'envie de les toucher. Ils y mettent tant d'élan que leur effleurement me parvient. Maintenant que c'est l'été, ils me frôlent la gueule, ils essuient ma sueur. Les esprits se trouvent bien dans les vieux immeubles. Mais si quelqu'un dit qu'il les a vus, c'est un mensonge. Les esprits, on peut seulement les toucher quand ils le veulent, eux.
Mastellico héberge dans sa boutique un cordonnier qui s'appelle Don Raffaniello. Moi, je nettoie aussi sa place autour de sa caisse et du tas de souliers qu'il répare. Il est venu à Naples de quelques sommets d'Europe après la guerre. Il est monté tout droit en haut de Monte Didio chez Mastellico et il s'est mis à arranger les chaussures des pauvres. Il les remet à neuf. On l'appelle Raffaniello parce qu'il a les cheveux roux, les yeux verts, qu'il est petit, avec une bosse qui pointe dans son dos. À Naples, en le voyant, on lui a collé le nom de Ravanello, radis rouge. C'est ainsi qu'il est devenu Don Raffaniello. Il ne sait pas lui-même depuis combien d'années il est au monde.
Les enfants ne comprennent pas l'âge. Pour eux, 40 ans ou 80 ans sont un même désastre. Une fois dans l'escalier, j'ai entendu Maria demander à sa grand-mère si elle était vieille. Elle lui a répondu non. Maria a demandé si son grand-père était vieux. Et la grand-mère a répondu non. Alors Maria a demandé, mais alors des vieux, il n'y en a pas. Et elle s'est pris une gifle. Moi, je les comprends, les années des gens. Mais celle de Raffaniello, non. Son visage fait 100 ans. Ses mains font 40. Ses cheveux, 20, tout roux, comme des broussailles. Ses mots, je ne sais pas, il parle peu d'une voix très fine. Il chante dans une langue étrangère. Quand je balaye son coin, il me fait un sourire. Ses rides et ses taches de rousseur remuent. On dirait la mer quand il pleut dessus.
Il est vraiment sympa, Raffaniello. Il répare les souliers des pauvres et ne se fait pas payer. Si quelqu'un veut une paire neuve, il prend ses mesures avec un bout de ficelle, il fait des nœuds à sa façon et se met à l'ouvrage. L'autre revient pour les essayer et il trouve des chaussures qui lui vont mieux que des gants. Raffaniello aime les pieds des gens. Il ne fait pas de mal à une mouche et aucune mouche ne l'ennuie. Elle vole autour de lui sans se poser, même quand il y en a beaucoup. Mastellico, au contraire, remue son cou comme un cheval de fiacre pour les chasser de sa figure quand il a les mains occupées. Il s'ébroue aussi comme un cheval. J'agite mon chiffon autour de lui et le laisse tranquille, une seconde.
Moi, je porte des sandales, même en hiver. Mon pied grandit et peut bien dépasser sans qu'on ait besoin d'en acheter une paire neuve. Elles me sont petites. Raffaniello les a prises pendant que je balayais pieds nus pour ne pas les user. Il l'a fait sans que je le voie. Quand je les enfile à midi, elles sont à ma taille et si confortables que j'ai eu peur de m'être trompée de sandales. Je l'ai regardé et il m'a fait, oui, de la tête. Je lui dis merci, Don Raffanier. Il répond pas de don. Mais vous êtes un bon chrétien, vous faites la charité aux pieds des pauvres, vous méritez le don. Non, non, le don c'est bon pour les autres et puis je ne suis même pas chrétien. Dans mon pays, le nom que je portais était un peu comme celui de Raffaniello. Je me suis tue. Je n'avais pas encore échangé 10 mots avec lui. Le cuir des sandales était parfumé, ressuscité entre ses mains. À la maison, maman m'a félicité de me faire aimer des gens. Avec Raffaniello, ça ne compte pas. Il aime tout le monde.
Thank you.
J'entends des cris et des voix napolitaines. Je parle napolitain. Mais j'écris en italien. Nous vivons en Italie, dit papa. Mais nous ne sommes pas italiens. Pour parler la langue, nous devons l'étudier. C'est comme à l'étranger, comme en Amérique. Mais sans s'en aller. Beaucoup d'entre nous ne le parleront jamais, l'italien. Et ils mourront en napolitain. C'est une langue difficile, dit-il. Mais tu l'apprendras et tu seras italien. Ta maman et moi, non. Noi non pu. Non può. Noi non potimo. Il veut dire que nous ne pouvons pas, mais le verbe ne lui vient pas. Je le lui dis, nous ne pouvons pas. Bravo, dit-il, bravo. Toi, tu connais la langue nationale. Oui, je la connais. Je l'écris même en cachette, et je me sens un peu traître au napolitain. Alors je me récite mentalement son verbe pouvoir. I pozzo, tu puoi, i so può, noi potimmo, voi potite, loro ponno. Maman n'est pas d'accord avec papa. Elle dit, nous sommes napolitains, un point c'est tout. Mon Italie, dit-elle avec deux M, mon Italie est en Amérique, là où vit la moitié de ma famille. La patrie, c'est celle qui te donne à manger, dit-elle en conclusion. Papa lui répond pour blaguer. Alors ma patrie, à moi, c'est toi. Mais il ne veut pas donner tort à maman. Chez nous, on n'élève pas la voix. On ne se dispute pas. S'il est contrarié, il met la main sur sa bouche et cache la moitié de son visage.
Masterico m'a mis à passer du bouche-port et du papier de verre. Je caresse les portes d'une armoire à vêtements. Mais combien de vêtements possède cette famille ? Nous sommes en train de faire 8 portes, 2 étagères. C'est une 4 saisons. Aujourd'hui, j'ai testé la fermeture de la première porte et elle s'est si bien ajustée qu'elle a eu un bruit de souffle. L'air s'est échappé de l'intérieur. Du coup, j'ai mis mon visage tout près du battant. J'ai senti une caresse d'air. Les esprits frôlent mon visage comme ça. Puis Masterico l'a démontée et l'a recouverte. C'est un travail important qui arrange bien toute une année. Les tiroirs sont en hêtre, les entailles à queue d'aronde. Un plaisir de les voir sortir de ses mains. Il vérifie les angles droits de nombreuses fois, graisse les glissières, tire et pousse les tiroirs sans bruit, comme la ligne en mer, dit-il, qui monte et qui descend, muette, dans sa main. Masteri, dis-je, vous êtes un phénomène, un ébéniste pêcheur.
Masterico achète il mattino tous les jours. C'est une dépense. Il en a pour 30 lires. Il dit qu'un homme doit savoir ce qui se passe dans le monde. Il nous lit les nouvelles à haute voix. L'épée est tombée de la main de la statue de Roger le Normand devant le Palazzo Reale. À Gênes, grosse bagarre entre la police et les ouvriers. La voix de Masterico est forte. L'effet qu'il lit me reste gravé. Le dimanche, il va à la pêche, à la rame devant le port, avec une ligne. Il reste tranquillement au milieu du trafic des navires jusqu'au soir. Il attend jusqu'à ce qu'un sargue se laisse prendre. Un sargue devant la digue du port, difficile à croire, sous le feuilletage noir de l'eau. « Il y en a, dit-il, qui sont malins comme les gosses des rues. C'est tout un art de les voler à la mer. Il faut une moule comme appât, m'explique-t-il un jour. »
Le sargue ne monte jamais sur notre table. Nous sommes des mangeurs d'anchois. Le sargue, ça coûte cher, mais lui, il en rapporte tous les dimanches chez lui et le fait cuire dans du bouillon. Ciel et mer le permettant, dit-il. Il vit seul. À 60 ans, il ne porte pas de lunettes, il s'abîme les yeux. Il doit prendre plusieurs fois la mesure des coupes, faire plus attention. L'apprenti qu'il employait avant était bien, mais il a grandi avec les voyous. Et maintenant, il est en tôle. Alors moi, je suis arrivée. Je lui prête mes yeux. Je lui marque les millimètres. Ensuite, il calcule combien vole la coupe et il corrige la mesure.
Je passe mes journées à nettoyer les outils, les machines. J'enlève les copeaux, la sûre. Je deviens assez robuste avec l'exercice du boomerang. Mes épaules poussent contre ma chemise. Un éventail de muscles tire l'étoffe dans mon dos et une ligne de cale passe au centre de mes mains, là où je serre le manche du bois. Le soir, au lavoir, je force le lancer. Je fais le mouvement jusqu'au bout, et puis je le retiens au dernier moment, à la fin de la course de l'épaule et du bras. La poussée se renforce, le boomerang frémit d'envie. Je transpire dans ma paume une odeur de bois amer, plus amer que le châtaignier. Personne ne me voit, seuls les esprits me soufflent au visage de sèches caresses. La rue fait aussi du vacarme le soir, mais moi, je suis plus haut que tout le monde, sur la terrasse du linge, et le bruit le plus fort est le coup du boomerang qui fend l'air au passage derrière mes oreilles.
Raffaniello est fatigué. Il a un sommeil agité, sa bosse le brûle. Pourtant, il est content. C'est bon signe, dit-il. Il se confie à moi quand Masterico sort pour acheter du bois. Il m'a raconté son histoire. Il est venu à Naples par erreur. Il voulait aller à Jérusalem après la guerre. Il est descendu du train et il a vu la mer pour la première fois. La sirène d'un navire a sifflé et il s'est souvenu d'une fête de son village qui commence par un son identique. Il a regardé les pieds, combien sans souliers, beaucoup d'enfants comme dans son pays, secs, vifs. Il les voit comme les siens. Lui vient d'un pays plein de malheurs qui a perdu tous ses enfants. La foule de Naples les lui rappelle. Dans son village, les gens sont devenus si peu nombreux qu'ils ne se saluent plus. À Naples, au contraire, on peut passer sa journée rien qu'à saluer, et puis aller se coucher, fatigué, seulement pour ça.
Raffaniello se promenait dans notre ville étrangère, et pourtant presque identique à la sienne d'avant la guerre, identique dans les visages, les cris, les insultes, les mauvais sorts, et il trouvait bizarre de ne pas comprendre un seul mot. Il touchait ses oreilles pour voir s'il y avait un problème, et il en rit en me le racontant. Il s'est résigné. La ville était étrangère. Ce doit être à cause de la mer qui la retient, la ville, et qui ne la laisse pas partir. Donc lui aussi doit s'arrêter. Il ne peut continuer à pied vers Jérusalem. Les navires vont en Amérique, pas en Terre Sainte. Alors il reste. Il dit. Je reste un peu. C'est la fin de l'année 45. On a besoin de souliers. Les gens veulent se marier. Naples est pleine de noces. Raffaniello s'arrête et attend. Dans la boutique, je suis sous le charme de ces histoires. Je dois me pincer fort pour me remettre au travail.
Chacun de nous vit avec un ange, c'est ce qu'il dit. Et les anges ne voyagent pas. Si tu pars, tu le perds. Tu dois en rencontrer un autre. Celui qu'il trouve à Naples est un ange lent. Il ne vole pas, il va à pied. « Tu ne peux pas t'en aller à Jérusalem, lui dit-il aussitôt. « Et que dois-je attendre ?» demande Raffaniello. « Cher Rav Daniel, lui répond l'ange qui connaît son vrai nom, « tu iras à Jérusalem avec tes ailes. « Moi, je vais à pied, même si je suis un ange. « Et toi, tu iras jusqu'au mur occidental de la ville sainte, « avec une paire d'ailes fortes, comme celle du vautour. « Et qui me les donnera ?» insiste Raffaniello. « Tu les as déjà, lui dit celui-ci. Elles sont dans l'étui de ta bosse. » Raffaniello est triste de ne pas partir, heureux de sa bosse jusqu'ici un sac d'os et de pommes de terre sur le dos. Impossible à décharger. Ce sont des ailes. Ce sont des ailes, me raconte-t-il en baissant de plus en plus la voix, et les taches de rousseur remuent autour de ses yeux verts fixés en haut sur la grande fenêtre.
L'ange de lui a répété, parce qu'il faut dire les choses deux fois aux hommes. « Oui, tu voleras avec tes ailes jusqu'à Jérusalem, et tu feras des souliers avec Rav Yohanan à Sandler, qui serait chez nous Don Giovanni le cordonnier. »« Comment était l'ange de son pays ?» lui ai-je demandé. « Quelqu'un qui savait faire de la vodka et de la neige, » m'a-t-il répondu. « Je la connais, la neige. Elle est tombée en 56 et elle a nettoyé la ville. Naples n'a jamais été aussi blanche. » « La neige ne nettoie pas, elle recouvre, laisse tout pareil, mais elle ne balaie rien, monseigneur Raffaniello. » Et je me tais.
J'écoute ces histoires et je voudrais lui dire que moi aussi je sais voler, mais seulement au-dessus de Naples. Je voudrais lui dire comment on fait, comment on doit placer son corps, que ce sont les yeux qui guident, quand tu regardes en haut, tu te soulèves. En bas, tu descends. Je voudrais lui dire ce que j'ai appris dans mon sommeil, mais je me tais. Moi, je sais seulement flotter en l'air. Le sérieux des ailes lui appartient. Puis Masterico revient. Je décharge les planches qui sont brutes, mais les échardes ne me font rien. Désormais, j'ai du cuir sur la peau. Les histoires de Raffaniello me rendent joyeux, mettent de l'air dans mes os, une joie d'oiseau voilié. Le soir, au lavoir, mon bras veut partir derrière le boomerang. Je ralentis la poussée et le frein durcit mon nouveau muscle, lui donne la forme d'une fronde.
Mastérico dit que les pêcheurs ne savent pas nager, que c'est bon pour les estivants qui vont au milieu des vagues pour s'amuser et qui se mettent exprès au soleil. Le soleil est agréable pour celui qui le prend allongé, immobile. Pour celui qui le porte sur le dos de sa première lueur jusqu'au soir, le soleil est un sac de charbon, comme la bosse de Raffaniello. Je le pense sans le dire. Je suis un apprenti et je ne veux pas donner mon avis au patron. Et puis si je me tais, lui continue à raconter et la journée passe plus vite. Les pêcheurs vont en mer sur leur bateau à moteur ou à rame et ne se mouillent même pas le visage. Sur la tête, ils s'enfoncent un béret que même le vent ne peut arracher. Sur les vieux marins, tu sens le tabac, la sueur, mais pas le sel. Le dimanche, ils sortent bien habillés avec leurs chemises blanches. On prend peu de poissons dans le golfe. Pour rapporter quelque chose à terre, il faut rester en mer toute la journée. Tout ce qu'on me dit sur la mer m'intéresse. Je ne la connais pas. Je la vois, mais je ne la pratique pas. Mastérico me parle volontiers. L'autre apprenti l'écoutait avec ennui. Lui, il continuait bien à parler, mais « Aggiornata e nu morto » soupire-t-il. Et il dit, pour finir, que le sel de la mer est amer, comme celui de la sueur, et qu'aucun des deux n'est bon pour l'eau des pâtes.
Les musiques que vous avez entendues sont de Jean-Paul Albert. Jean-Patrick Lafont et moi-même, Ouria l'Arbimansour, vous ont lu le début de ce roman, Monte di Dio, de Eri De Luca, paru aux éditions Gallimard. Juste quelques lignes encore, pour vous donner l'envie de continuer ce Monte di Dio. Maria surgit de l'obscurité des lavoirs. Ses 13 ans ont plus vite poussé que les miens. Elle est déjà dans un corps formé. 3 doigts sous la frange de ses cheveux noirs, courts, il y a sa bouche aux mots rapides. Je les vois sortir de la glissière de ses grosses lèvres. Son sourire entaille son visage d'une oreille à l'autre. Maria connaît les gestes des femmes. Je suis devant elle et je sens mon ventre vide, une faim de pain, de mordre dans sa tranche de pain beurré. Elle me l'offre. Je dis non. Elle a découvert que je m'entraîne avec le boomerang. Elle est curieuse. Elle m'entend monter, passer devant sa porte. Elle s'approche. La soirée est chaude et apporte ses odeurs. Chocolat, origan, cannelle. J'aspire à fond. C'est un parfum français, dit-elle, en faisant sortir l'heureux de sa gorge. Thank you.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.